À Gourdon, 104.8.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Présence Midi. Après ce moment de prière et de recueillement avec Laurie Ginacelli, nous avons rendez-vous avec notre belle région. Au sommaire aujourd'hui de ce Présence Midi, nous retrouverons tout d'abord Benoît Guillard pour la chronique verte. Nous irons à Galland dans les Hautes-Pyrénées à la rencontre d'une équipe du CMR chrétien en monde rural, des professionnels du médico-social et du monde hospitalier qui ont choisi de vivre et de travailler en milieu rural. Ensemble, ils s'interrogent sur les réalités du soin aujourd'hui, les difficultés du terrain depuis la crise Covid, mais aussi les motivations et les défis rencontrés par les soignants dans nos campagnes. Et puis nous partirons ensuite dans le Gers avec Pauline Cazier qui nous fera découvrir le festival de Terre Solidaire qui se déroulera à Lectoure du 8 au 10 mai prochain. 3 jours de rencontres, de débats, d'ateliers, de propositions culturelles autour de l'agroécologie et des enjeux agricoles et alimentaires de demain. Nous entendrons Christian Tronche, bénévole et organisateur de cet événement porté par le CCFD Terre Solidaire. Et puis enfin Philippe Lonnier et Diego Rabal dans un jour un livre, un auteur nous proposera aujourd'hui
Présence
l'émission
à Moissac 93.3.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous trouvons cette semaine à nouveau pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, je suis exactement à Galland, à l'est du département, au nord de Lannemezan ou au sud de Castelnau-Magnoac. Et je suis à Galland avec un groupe donc CMR, Chrétien en monde rural, une équipe CMR qui est une équipe de personnes qui sont investies dans le travail de la santé, médico-social et hôpital, et qui réfléchissent un petit peu sur cette difficulté du travail, de vivre dans le rural aussi, la difficulté aussi, ce qu'est le monde de la santé et du soin actuellement, avec notamment depuis la crise Covid. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir vous les faire rencontrer et les faire témoigner, puisqu'ils ont fait le choix, ou elles ont fait le choix plutôt, de préparer un questionnaire qui était destiné au personnel soignant, qui ont fait le choix de travailler en rural. Là, le personnel, on était essentiellement sur le secteur de Trie-sur-Baïse, Bonnefonds, Montastruc et Lannemezan, donc tout autour de Galland. Et ce questionnaire visait à comprendre leur motivation à vivre dans le rural, leurs expériences et les défis rencontrés. Donc voilà, donc pour décrire un petit peu la scène, je suis avec donc Geneviève, Régine, Nadège et avec une autre Geneviève, qui font partie du groupe CMR de Galland et qui, pour la plupart d'entre elles, travaillent soit dans les établissements médico-sociaux de Bonnefonds, Montastruc, soit à l'hôpital de psy de Lannemezan. Bonjour mesdames et merci d'avoir accepté de m'inviter, de répondre à ces questions et peut-être aussi de partager un petit peu votre regard et votre expérience avec nos auditeurs autour des difficultés du monde du soin et des soignants en milieu rural. Alors, je vais me permettre ces quelques questions, puisque c'était des questions que vous avez fait parcourir à vos collègues, et en particulier voir un petit peu qu'est-ce qui fait que aujourd'hui un professionnel soignant fait le choix de travailler en milieu rural. Je vais peut-être commencer par vous, Geneviève.
Bien, je pense que les professionnels, en particulier, recherchent la paix, l'environnement, toute la nature qui va avec, et puis la proximité avec les habitants du village aussi. Voilà, il y a beaucoup de rencontres, d'échanges avec les résidents et nous-mêmes, quoi, professionnels.
Donc, il y a aussi l'opportunité professionnelle, donc, dans le contexte des gens. Si je trouve un poste, si j'ai un poste, notamment dans le secteur psy, j'ai cru comprendre, si j'ai un poste à l'hôpital de Lannemezan, des hôpitaux psy, il n'y en a pas 50 000, c'est l'opportunité de prendre ce poste, ou alors c'est la proximité aussi avec la famille, ou c'est encore l'attrait pour le rural. Et alors, par rapport à justement ce travail en rural, je vais peut-être me tourner vers vous, Régine. Comment vous, dans ce questionnaire, vous avez restitué un petit peu les avantages que les gens trouvaient à travailler dans le rural tout en étant dans le monde du soin et de la santé ?
Eh bien, les avantages, c'est qu'on peut proposer des formations continues, des financements, des études pour le logement, le financier. Ça, ce sont les avantages après une satisfaction de vie de ce métier.
Oui, donc finalement, il y a quand même des atouts. Les gens qui viennent travailler dans le rural tout en étant dans ce monde ont trouvé un petit peu un attrait, et a trouvé un petit peu un attrait à vivre dans ce rural. C'est votre cas à toutes, ici, hein, a priori. Hein. Et donc ça, c'est intéressant peut-être de le partager, c'est se dire que finalement, on se dit les déserts médicaux un peu partout en France, c'est quand même un des drames de la France. Et pour autant, si les gens étaient amenés à rencontrer le rural et à connaître le rural, peut-être que finalement, ils trouveraient aussi des atouts et donc feraient le choix au final de venir travailler dans ces secteurs. Donc c'est aussi encourageant un petit peu de vous entendre sur cette question. Mais il y a aussi des difficultés, sans doute des défis à relever quand on vient dans le rural, hein, dans ce contexte. J'ai lu dans votre questionnaire, dans les réponses que vous portiez, parce que moi je l'ai sous les yeux, qu'effectivement dans les difficultés, vous citiez un certain nombre de difficultés, comme l'isolement géographique ou l'isolement professionnel, mais aussi d'autres difficultés qui me surprennent plus, mais qui m'interpellent, parce que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, c'est donc la charge de travail élevée. Et là, je vais peut-être vous laisser témoigner là-dessus.
Beaucoup de travail, pas forcément beaucoup d'infirmiers ou d'AMP, voilà, le personnel qui manque souvent. Donc, il faut travailler, faire le même travail en étant moins, donc ça entraîne des difficultés, dont les gens saturent aussi, des difficultés aussi au travail, les burn-out et compagnie. Voilà, et puis l'accès est limité aussi beaucoup de... Il manque de médecins, on le sait très bien, les déserts géographiques, les médecins qui partent à la retraite qui ne sont pas forcément remplacés, ou dans les hôpitaux, les médecins qui viennent des grands hôpitaux de Toulouse et tout ça, mais qui ne sont pas là tout le temps. C'est aussi des difficultés supplémentaires pour la ruralité.
Et pour autant, vous dites, quand on parcourt ce questionnaire, vous dites pour autant quand même qu'aujourd'hui, pour la plupart des professionnels de la santé que vous avez rencontrés autour de ce questionnaire, la plupart ne regrettent pas leur choix. Ils sont plutôt satisfaits, voire très satisfaits de ce choix de vie en rural. Et même, ils vont plus loin puisqu'ils disent qu'ils recommanderaient même à leurs collègues de travail de venir travailler dans le rural. Ce qui peut surprendre finalement, hein, par rapport au sujet que l'on pressent aujourd'hui autour des déserts médicaux. Et donc, c'est votre cas. Et donc, on sent bien qu'il y a quand même une vraie motivation à rester dans le rural. Et vous le dites dans ce questionnaire. Et donc, en particulier, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui motive le personnel de soins à rester dans le rural? Là, je vous interroge toutes les trois individuellement. J'en profite puisque je vous ai là. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à rester dans ce rural?
J'habitais à 5 km, donc ça a été ma première motivation. Hein. Voilà, c'est ça. En ayant des enfants, et voilà. Et j'étais relativement dans un confort, quoi, quelque part. Hein. Voilà.
Et aussi peut-être l'opportunité d'un emploi dans un territoire où il n'y a pas d'entreprise, pas de grosses entreprises.
Oui, l'ADAPI, quand même, dans le coin, c'était recruté énormément. Hein, voilà. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres opportunités. Voilà.
Et vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté ici, sur ce territoire, à travailler dans le médico-social?
Le travail, l'opportunité d'avoir du travail, et aussi les avantages aussi, c'est vivre à notre rythme de vie, un rythme. On trouve le rythme avec la nature, le sport et tout ça, et la paix.
D'accord. Alors, puisque j'ai aussi une infirmière du secteur psy de Lannemezan, peut-être que le regard est un petit peu différent. Donc, je vais lui poser la même question. Qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce qui vous fait rester dans ce territoire?
Après, c'est sûr, bon, c'est la ruralité aussi. En ayant vécu toute ma vie en milieu rural, l'accès aussi au sport. Beaucoup sont restés ici dans mes collègues pour le sport, les équipes sportives du coin rural, le rugby notamment. Après, c'est aussi le secteur psychiatrique où il n'y a pas forcément... Moi, particulièrement, j'avais un attrait pour cette spécialité. Bon, il n'y a pas beaucoup d'offres sur le territoire, donc c'était aussi une opportunité de travailler à proximité, en milieu rural et en psychiatrie. Voilà. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi l'Almezin de rester à la campagne, voilà, en milieu rural.
Alors, j'ai trouvé aussi une question très intéressante dans votre questionnaire, qui était la suivante, qui était de dire quelles sont pour vous les mesures incitatives qui pourraient renforcer l'attractivité des zones rurales pour les professionnels de la santé. Et vous avez répondu, enfin plutôt vos collègues ont répondu à une grande majorité, la formation, également la participation aux frais de transport, puisque c'est vrai que vivant dans le rural, se rendre au travail, ça peut coûter plus cher hein, que quand on est en ville avec des transports en commun. Et beaucoup ont cité aussi, notamment les jeunes, une aide financière pour les études. Hein, et donc ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui, les jeunes que vous côtoyez dans le secteur du médico-social ou dans le secteur de l'hôpital sont des jeunes qui viennent et qui se forment, qui continuent à se former.
Et ça motiverait aussi, notamment pour les étudiants infirmiers, les motiver après à avoir un poste d'infirmier à la fin de leur formation. Et s'ils avaient les études payées, c'est vrai que ça aide, déjà financièrement pour leurs parents et pour eux. Et après, ça motive aussi pour de rester après à l'hôpital qui les a formés, qui leur a payé les études. Et les aider aussi peut-être au logement, les aider à trouver un logement, voilà, milieu rural. Aussi, c'est pas négligeable, tout ça, c'est des petites choses dont il faudrait donner un coup de pouce pour les jeunes qui arrivent, qui trouvent leur satisfaction de travailler en milieu rural et voilà, rester, pouvoir travailler dans un milieu quand même agréable avec pouvoir faire leur vie à côté, des activités, tout ça, et voilà, rester en milieu rural, c'est toujours, on leur met toujours ça. Hein. Ouais.
En tout cas, ce qu'on perçoit à la conclusion de cette enquête, hein, du travail que vous avez réalisé auprès de vos collègues, c'est que globalement, les gens aiment ce qu'ils font et apprécient la vie en rural. Donc c'est intéressant de le faire savoir, effectivement, vous avez raison, auprès des jeunes, auprès des gens qui sont dans les écoles, leur faire savoir qu'il y a des beaux témoignages autour des gens qui vivent dans le monde de la santé, du médico-social.
Bon, je parle de l'Almezin parce qu'on est bien. Avant, les infirmiers, souvent, étaient aussi agriculteurs à côté. Ils avaient cette seconde activité. Ils étaient autant infirmiers que paysans.
Oui, c'était des doubles actifs. Et tout comme beaucoup d'épouses d'agriculteurs aussi, puisqu'il y avait ce travail, ils avaient la possibilité de se former et ensuite d'intégrer donc des postes dans les établissements médico-sociaux en particulier, puisque sur les territoires ruraux, il y a eu beaucoup d'établissements médico-sociaux, et c'était souvent des femmes d'agriculteurs, en fait, qui occupaient ces postes, parce que c'était une opportunité pour elles de travailler à côté, à proximité, hein, c'est tout à fait ça. Hein. En tout cas, merci infiniment pour ce beau travail, ce beau témoignage. J'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir ce dialogue avec vous et de faire rencontrer aussi votre secteur auprès des auditeurs de Radio Présence. Je parle, moi, du rural, je parle de l'écologie, je parle de la vie en rural, et je trouvais intéressant de souligner un petit peu à la fois la réflexion, le travail que vous portez dans le cadre de l'équipe CMR de Galant autour de justement ces déserts médicaux, et puis la motivation qu'ont les professionnels d'aujourd'hui à venir travailler dans le rural, et puis aussi de donner quelques perspectives pour les jeunes qui souhaiteraient venir travailler dans ce secteur. Merci infiniment, et puis au plaisir de vous retrouver. Merci. Au revoir. Merci,
Radio Présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
Et un grand merci à Benoît Guillard, et on ne dit pas merci à l'informatique qui m'a coupé le sifflet pour le sommaire de ce magazine. On retrouve bien sûr dans quelques instants Philippe Leny et Diego Rabal. On parlera d'une période sombre de notre histoire, l'histoire de France, d'ici donc quelques minutes. Mais pour l'heure, on part pour le Gers avec Pauline Cazier.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Le Festival des Terres Solidaires, qui se déroulera à Lectour dans le Gers du vendredi 8 au dimanche 10 mai prochain, est organisé par le CCFD Terres Solidaires en Midi-Pyrénées. Cet événement de 3 jours vise à réfléchir au modèle agricole et alimentaire en mettant l'accent sur l'agroécologie comme réponse aux crises écologiques et sociales. La programmation, majoritairement gratuite, inclut 6 tables rondes et conférences, une 15aine d'ateliers participatifs, une programmation culturelle et un village des engagements permanents. L'événement se tiendra dans divers lieux de la ville, des places, jardins, cathédrales, pour encourager la découverte du territoire à pied. Je vous propose la rencontre avec Christian Tronche, un des bénévoles et organisateurs. Il est au micro de Pauline Cazier.
Alors effectivement, c'est la première édition. Les objectifs, donc, dans les missions du CCLD, vous savez, on lutte contre les causes structurelles de la faim depuis les années 60. Et donc dans ce cadre-là, on a mené pendant 4 ans un projet de partenariat un peu plus serré, soudé que à d'autres occasions pour nous en région, avec la région des Grands Lacs en Afrique. Donc les Grands Lacs, on parle du Rwanda, du Burundi et du Kivu. Malheureusement, là, Kivu, il y a eu des événements qui font qu'on a eu un peu moins de suivi. Et donc dans ces trois zones, on a des projets que suit le CCFD depuis très longtemps. Et donc on a focalisé notre travail pendant ces 4 années sur la souveraineté alimentaire et l'agroécologie. C'était le thème au milieu d'un autre ensemble d'actions du CCFD au niveau national. Et donc dans le cadre de ce travail sur l'agroécologie et la souveraineté alimentaire dans cette zone, on a eu un appui de l'Agence française de développement qui nous a permis aussi de nous lancer dans ce premier festival, puisqu'il faut un certain nombre de moyens. Ce qui correspond aussi à nos missions, nous bénévoles en région, qui sont de travailler à la notoriété du CCFD, bien sûr, de essayer de mettre en avant les sujets qui nous préoccupent de lutte contre la faim dans le monde, et puis aussi de collecter des fonds, puisque le CCFD, comme toutes les associations de notre genre, les organismes de solidarité internationale, ont besoin de l'appui des personnes autour d'eux. Voilà, en résumé, comment on s'est lancé dans cette grande opération.
Oui, c'est une grande opération, comme vous dites. Il y a quand même une cinquantaine de manifestations, que ce soit des tables rondes, des ateliers, des concerts. Il y a vraiment pour tous les goûts. Ça sera très familial. Est-ce qu'on pourrait parler déjà des tables rondes? Vous animerez d'ailleurs deux d'entre elles, les tables rondes sur l'eau, par exemple, qui est un bien commun, sur l'agroécologie.
Donc on a organisé dans ce cadre-là 6 tables rondes différentes. Bon, la première est en plus un positionnement un peu comme le CCFD pour essayer de réfléchir ensemble à comment on peut nourrir véritablement 10 milliards d'humains sans dévorer la planète, donc avec les sous-jacents tous les problèmes environnementaux dont on parle aujourd'hui. La seconde, c'est plus pour vraiment focalisé là, au lieu de partir vraiment de façon très très large. Au contraire, on va aller de façon très très pointue sur la vie du sol en particulier. Donc alors, avec un intervenant qui a une notoriété nationale, hein, Marc-André Sellos, qu'on voit en ce moment un peu partout, qui est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. La troisième conférence sera plus une réflexion avec des locaux et des gens de niveau national aussi qui travaillent sur les relations nord-sud et les équilibres dans les échanges. Donc en particulier, vous avez Iticable qui est à Florence, qui sera présent à cette table ronde. La quatrième, alors là, c'est la table ronde, on va dire, un peu phare, dans la mesure où on a quelqu'un aussi de notoriété nationale qui est Cyril Dion, donc qui a fondé les Colibris, qui a été désigné par Emmanuel Macron à l'époque pour animer ou gérer la Convention citoyenne sur le climat, qui a écrit des livres, fait des films, etc. D'ailleurs, il y aura un de ses films présenté par Ciné 32 le soir avec lui, donc il présentera la façon dont il a fait ce film animal. Voilà. Et puis on poursuivra effectivement celle sur l'eau pour terminer sur une conférence concernant, alors on va essayer vraiment de se centrer sur la problématique de l'alimentation ici, principalement comment on peut agir pour faire évoluer notre alimentation dans un sens qui permet de protéger la planète, entre autres, et la nôtre ici.
Vous avez beaucoup de partenaires, entre autres, puisqu'on parle de biodiversité, on parle des oiseaux, avec la LPO. C'est vrai que les oiseaux sont malheureusement victimes de ce qui se passe, c'est-à-dire le développement des pesticides. Cette table ronde, qu'est-ce qui sera débattu ?
Sur la table ronde.
La LPO,
La LPO intervient plutôt dans le cadre d'un atelier pour découvrir, aider les personnes à découvrir un petit peu leur environnement et en particulier là les oiseaux localement. Bon, j'imagine qu'ils vont aussi présenter un peu la problématique, mais là on n'est pas dans le cadre d'une table ronde, on est dans le cadre un peu de le deuxième axe un peu de ce qu'on propose, c'est-à-dire non pas une connaissance et une réflexion intellectuelle, mais plus une approche sensorielle des choses, en mettant pour la LPO voir les oiseaux et pour d'autres ateliers mettre les mains dans la cuisine, dans le bouturage, dans la fabrication de compost. Donc on fait appel à d'autres sens. Voilà. Ça c'est le deuxième axe. Un troisième axe, ça serait, on va dire, tout ce qui est artistique. Puisque là aussi, on va faire plutôt appel aux émotions, mais toujours en lien avec l'agroécologie, la souveraineté alimentaire, puisque vous avez par exemple dans la soirée humour Nicolas Mérieux qui intervient, qui est le terme aujourd'hui un influenceur, qui fait des émissions sur l'agroécologie, l'agriculture entre autres, ou l'alimentation. Après The Riggers ou la Roubla, de la musique latino-berbère ou du reggae rock, c'est aussi la musique internationale qui est peut-être plus facilement international que nous dans notre vision des choses au niveau local. Mais donc notre positionnement CCFD, on va essayer d'élargir un peu tout ça la focale dans notre réflexion sur la problématique de l'alimentation à long terme.
Alors, tout le long de ces trois jours, vendredi 8 mai, 9 mai et 10 mai, il y a le village des engagés. Qui on trouvera dans ce village?
Alors, dans le village des engagés, on va trouver pas mal de stands qui vont évoluer en cours de festival. Il y aura bien sûr au centre le CCFD. La plupart des gens connaissent le CCFD en tant qu'organisme qui appelle aux dons et qui intervient donc auprès de partenaires au sud, comme ceux qu'on va mettre en avant, qui seront là, nos partenaires burundais. Mais aussi, on va avoir la CIDI, qui est un organisme qui dépend aussi du CCFD, qui est en lien, disons, avec le CCFD, qui agit en appui pour les gens qui investissent, soit en garant lorsqu'ils veulent faire un emprunt, soit en prenant des parts pour les aider à démarrer. Et on aura aussi la Fondation Terre Solidaire, qui, elle, agit en France sur essayer de promouvoir les expériences d'agroécologie ici. Et puis après, bon, ça concerne le CCFD, mais on aura aussi des associations. La LPO aura un stand dont on parlait tout à l'heure, la DASEA, j'ai plus tout le monde en tête, mais il y aura un certain nombre de stands de présentation des activités. Amnesty International sera présent aussi le dimanche, etc. Voilà.
Dimanche, qui sera la journée des familles, avec des ateliers qui sont spécialement étudiés pour que les parents et les enfants puissent participer ensemble.
Tout à fait, oui, avec différentes compagnies ou différentes actions, mais toujours très pratiques, très concrètes. Et une autre chose on a fait un deuxième programme qui concerne les chrétiens. Donc, en particulier dimanche, on aura l'intervention de frère Jean-Michel de l'abbaye de Belloc sur la Laudato si, le matin, avant la messe. Donc la messe qui sera célébrée par Monseigneur Camiade, l'évêque de Cahors, puisque notre évêque ne pouvant être présent, il a demandé à son collègue de venir. Voilà. Et puis, tout durant le festival aussi, on a prévu un lieu où on pourra venir se ressourcer, réfléchir, toujours en lien avec les encycliques du pape François, Laudato si, particulier, Fratelli Tutti un petit peu. Et on met en place aussi dans le cœur de la cathédrale une exposition Laudato si, toujours, à partir de photos de Yann Arthus Bertrand, avec quelques textes, voilà. Donc il y a toute cette... Et puis un ensemble d'autres petites animations qui auront lieu tout au long du festival, avec des personnes engagées au CCFD qui animeront ces ateliers spécifiques qui s'adressent aux chrétiens. Ouais.
Est-ce qu'on peut parler, pour terminer, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, sans réservation, ou peut-être pour les ateliers, il faut réserver?
Il vaudrait mieux réserver effectivement sur les ateliers, puisque les places sont limitées. Alors, déjà, par exemple, en dehors des ateliers, aussi les spectacles. Le spectacle du dimanche est déjà bien engagé au niveau des réservations. Donc il faut peut-être pas traîner si on veut une place, celui de concernant le gospel le dimanche après-midi. Et après il y aura toujours la possibilité pour les personnes qui arrivent sans avoir réservé qu'on essaye d'organiser quelque chose pour qu'ils trouvent une place dans les différents ateliers, puisque les ateliers, si on regarde l'organisation, il y a plusieurs ateliers au même moment. Donc on peut jouer un petit peu quand même, essayer de trouver de la souplesse. Voilà, pas mal.
Voilà. Donc je répète une dernière fois, vendredi 8 mai, samedi 9 mai et dimanche 10 mai, le Festival des Terres Solidaires. Pour avoir tous les renseignements, on va sur le site CCFD Terres Solidaires.
Voilà, il y a deux façons, si vous avez le petit dépliant, il y a un QR code, mais si vous ne l'avez pas, vous tapez Festival des Terres Solidaires sur Internet et vous allez immédiatement tomber sur la page. Alors, vous pouvez aussi passer par le site national du GCF des Terres Solidaires, mais là, il faut un petit peu chercher. Mais si vous tapez Festival des Terres Solidaires, là, vous tombez directement. On est bien référencé, donc on est dans les hauts de liste qui apparaissent sur Internet.
Voilà, c'était Christian Tronche, qui est un des bénévoles et organisateurs donc, de ce Festival des Terres Solidaires qui se déroulera, je vous le rappelle, à Lectour, du vendredi 8 au dimanche 10 mai prochain. Et c'est organisé par le GCF des Terres Solidaires. En Midi-Pyrénées.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Voilà, petit tour donc dans le Gers à l'instant grâce à Pauline Cazier. Dans quelques instants, nous partirons là cette fois-ci du côté de nos bibliothèques puisque Philippe Noni nous proposera un nouveau rendez-vous, un jour, un livre, un auteur consacré cette semaine à une page méconnue et douloureuse de notre histoire, celle des travailleurs indochinois réquisitionnés pendant les deux guerres mondiales à travers l'ouvrage récent de Pierre Dôme. Colonisés, déplacés, exploités, travailleurs indochinois en Dordogne, 1940-1948. Nous reviendrons sur le destin de ces milliers d'hommes arrachés de leurs terres pour participer à l'effort de guerre en France. C'est un devoir de mémoire qu'aime bien faire Philippe Noni dans Un jour, un livre, un auteur. Mais pour l'heure, on retrouve l'actualité qui nous est présentée par Ambre Pagès de l'Institut catholique de Toulouse. Elle est en formation de journaliste. Bonjour Ambre.
Bonjour à tous. Hier matin, aux alentours de 10h30, une explosion a eu lieu sur le site de l'entreprise Safran, à Blagnac. Au moment de l'impact, un essai technique était en cours. L'accident aurait été causé par une buse sous pression. Un important dispositif a été déployé. Le protocole de sécurité a été déclenché et l'établissement a été évacué. Afin de déterminer les causes précises de cet événement, une enquête interne est en cours. Plusieurs blessés ont été recensés parmi les salariés, dont deux grièvement. Vincent Roberti, actuel préfet du Tarn-et-Garonne, pourrait devenir directeur général du comité d'organisation des JO d'hiver 2030. C'est ce qu'a annoncé le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030, ce mardi 5 mai, dans un communiqué de presse. Un poste inoccupé depuis fin février. Le haut fonctionnaire va être proposé par Edgar Gros-Piron, le président du COJOP. Lundi prochain, soit le 11 mai, la nomination sera soumise à l'approbation des membres du bureau du comité d'organisation. L'intersyndicale de l'hôpital de Decazeville en Aveyron dénonce un manque de moyens dans un communiqué publié hier. Pendant deux jours, d'abord dimanche 3 mai, puis mardi 5 mai, les infirmières étaient seules à assurer l'accueil des patients aux urgences. La CGT et la CFDT de l'hôpital déplorent l'absence de médecins urgentistes pour garantir les soins. Les conditions sont compliquées, particulièrement pour les infirmières, qui doivent se référer au SAMU pour établir des diagnostics. L'intersyndicale appelle donc à un rassemblement le 19 mai, en fin d'après-midi, pour dénoncer la situation. Le mois de mai va être accompagné de nombreuses perturbations sur le trafic ferroviaire autour de Toulouse. SNCF Réseau va mener des travaux de modernisation et de renouvellement des infrastructures. Ces chantiers vont avoir lieu lors des trois derniers week-ends du mois et vont entraîner l'interruption temporaire de circulation sur plusieurs lignes. Les lignes entre Toulouse et Montauban seront temporairement interrompues du 8 au 10 mai, puis du 14 au 17. Entre Haute-Rive et Pamiers, ainsi qu'entre Toulouse et Castelnaudary, la circulation sera fermée du 14 au 17 mai. Enfin, cette perturbation concernera aussi la ligne entre Muret et Caseres, du 8 au 10 mai et du 23 au 25. Pour être guidée lors des messes, Camille Léonard, une jeune convertie de Figeac, dans le Lot, a développé la messe accompagnée. Des livrets, des carnets de chants sont mis à disposition à l'entrée de l'église, pour ceux qui assistent à leur première messe. Les fidèles habitués accompagnent aussi les nouveaux venus. Une initiative pour guider et accueillir ceux qui franchissent les portes d'une église, parfois pour la première fois. Et enfin, le Gers accueille le Tour Auto 2026 ce samedi 9 mai pour l'étape Pau-Biarritz. La 35e édition se déroule du 3 au 9 mai et partira depuis Paris Grand Palais pour rejoindre Biarritz. La RD 152 sera donc fermée à la circulation. Une épreuve sur le circuit de Nogaro sera aussi organisée.
Et voilà, le journal nous était présenté par Ambre Pagès, donc, qui est plutôt étudiante à l'école de journalisme de l'ICT, donc l'Institut catholique de Toulouse. Le retour de l'actualité, mais vous en avez l'habitude, ce sera le grand journal national et international de Radio Vatican. On va parler maintenant, on va partir du côté de l'histoire. Dans Un jour, un livre en auteur, Philippe Bonny aime bien avoir ce devoir de mémoire. Et on va parler de tous ces ouvriers indochinois qu'on a arraché de leur terre pour venir travailler en France. Et donc on parle grâce au livre qu'a sélectionné Philippe Noni cette semaine dans Un jour, donc un livre, un auteur.
Présence à Auch, 89.6.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercase.
On devrait débuter cette chronique, Philippe Noni, par souhaiter un joyeux anniversaire à Diego Arabal.
Exactement, tout à fait.
Puisque Diego Arabal fait 25 ans cette année, hors taxe.
Hors taxe, oui.
Ah, oui, 25 ans hors taxe.
Mais les
taxes sont lourdes.
La TVA n'est pas à 20% pour lui, hein. Je pense qu'elle est plutôt à 50%.
Largement.
En attendant, vraiment un joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, Diego.
Merci les amis, merci.
C'est dit avec le cœur.
Et merci d'être fidèle à cette émission Un jour un livre, un auteur. Alors, la semaine dernière, vous avez fait avec l'auteur que vous avez sélectionné.
Lettres aux absentes.
Un devoir de mémoire. On va rester un peu dans ce devoir de mémoire.
On reste dans le devoir de mémoire, tout à fait. Je vous l'avais annoncé, Philippe Subercase, à l'issue de l'émission de la semaine passée. On reste dans le périmètre de mémoire et on part explorer l'une des pages sombres et méconnues de notre histoire. Cette page, c'est celle de ces milliers de travailleurs coloniaux, ces travailleurs dits de la MOI, la main-d'œuvre indigène, que l'on a fait venir par milliers durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, afin de suppléer le départ des hommes au front. Il fallait des bras dans les usines d'armement pour produire la poudre, les balles, les obus nécessaires à l'effort de guerre contre l'Allemagne. Des milliers de travailleurs indochinois ont donc été réquisitionnés et envoyés à fond de cale en France. On rappelle que l'Indochine française, ça comprenait le Tonkin au nord, la Nam au centre, la Cochinchine au sud, ces trois régions constituant aujourd'hui le Vietnam, et qu'il y avait également deux autres régions qui ont donné aujourd'hui deux autres pays, le Laos et le Cambodge. Tout cela formait l'Indochine française. Ils ont donc été réquisitionnés et envoyés de force à fond de cale en France, à peu près 40 jours de bateau, avec interdiction de monter sur le pont du navire durant toute la traversée depuis l'Indochine française jusqu'au port de Marseille. Ils pouvaient partir du port de Da Nang ou du port de Saïgon. Un livre parle de cette triste réalité. Colonisés, déplacés, exploités, travailleurs indochinois en Dordogne, 1940-1948, publié en 2025. Vous voyez que c'est un livre très récent, aux éditions Élitis par Pierre Dom. Alors, qui est Pierre Dom? Pierre Dom, précisons-le, c'est un collaborateur du Monde diplomatique, et c'est un spécialiste, donc le Monde diplomatique, hein, qui est un journal de référence, un mensuel, qui sort chaque mois avec des articles de fond, et un spécialiste du passé colonial de la France. Son livre est un ouvrage de référence, c'est une enquête menée en France, mais aussi au Vietnam, où il a retrouvé des survivants qui ont été des travailleurs coloniaux en France durant la Seconde Guerre mondiale, mais il a aussi retrouvé des travailleurs coloniaux qui se sont mariés à des Françaises, qui ont eu des descendants, et qui, comme la semaine passée avec Manuela Parra, n'ont jamais dit à leurs enfants que par moment ils ont quitté le Vietnam, et qu'ils avaient déjà femmes et enfants. Et certains des descendants ont découvert après la mort de leur père, quand ils ont voulu revenir au Vietnam, qu'en fait ils avaient des demi-sœurs. Voilà. C'est un livre extrêmement touchant dont on va parler aujourd'hui. Vous connaissiez cette réalité des travailleurs coloniaux et la MOI, la main-d'œuvre indigène, Diego Arabal?
J'en avais entendu parler, oui, mais je ne connais pas de façon approfondie, bien sûr. Donc ce sera un grand plaisir que vous nous éclairiez là-dessus, mon cher ami.
Allez, et je précise que ce livre, je l'ai trouvé en fait donc à Bergerac. Il y a eu une exposition, donc puisqu'il y a la poudrerie nationale de Bergerac, vous savez, qui a failli fermer, qui a rouvert, puisqu'aujourd'hui elle fabrique notamment toute la poudre qui sert à alimenter les obus qui sont envoyés donc pour la guerre en Ukraine. Voilà. Et à la poudrerie nationale de Bergerac, donc c'est là que ces ouvriers donc sont venus. Alors pas que là, il faut savoir que durant la Seconde Guerre mondiale, on a beaucoup de poudreries nationales en France. On a la poudrerie d'Angoulême, on a la poudrerie de Bergerac, donc Angoulême en Charente, Bergerac en Dordogne. On a la poudrerie de Sorgues dans le Vaucluse, on a la poudrerie de Saint-Chamas dans les Bouches-du-Rhône. On a une poudrerie également donc dans le Maine-et-Loire. Et toutes ces usines d'armement soutiennent l'effort de guerre. On voit qu'elles sont loin du front, notamment loin du front avec l'Allemagne, pour éviter effectivement les bombardements. Alors, je l'ai vu, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une exposition en fin 2025, début 2026, à Bergerac, qui présentait 80 ans après une expo sur les travailleurs indochinois. Je précise que quand j'étais gamin, mon père travaillait à la poudrerie nationale de Bergerac, alors même qu'on apprenait l'histoire du département, je n'ai jamais entendu parler des travailleurs coloniaux, qui ont été, durant la Première Guerre mondiale, jusqu'à 25 000, donc plus que la population de Bergerac, et durant la Seconde Guerre mondiale, à peu près un millier. Voilà. Aucune info dessus.
Alors, on va silence radio.
Ah, mais silence radio complet, donc c'est assez... assez étonnant. Je vais vous lire la quatrième de couve, d'ailleurs, vous allez voir, de ce livre. Alors, que vraiment je recommande. Alors, il est à 35 euros. C'est vrai que généralement, on recommande sur Présence des livres qui ne sont pas très chers, mais là, on est vraiment sur un livre à lire cet été, toujours dans le cadre de ce devoir de mémoire. Je vous lis la quatrième de couve. Livre, vous verrez, véritablement intéressant. Mercredi 14 février 1940 à 18h. Un train de marchandises s'immobilise en gare de Bergerac. Des centaines de Vietnamiens en descendent. 500, 600, 700 peut-être. Puis un second train arrive, déversant autant d'hommes, harassés par un périple qui dure depuis plusieurs semaines. Arrachés à leur village en Indochine 2 mois plus tôt, transportés à fond de cale jusqu'à Marseille, ces hommes sont destinés à la poudrerie nationale de Bergerac, la PNEB, afin de remplacer la main-d'œuvre française mobilisée au front. Traités en indigènes des colonies, soumis au racisme et à l'autoritarisme de leurs chefs français, souffrant du froid et de la faim, ces travailleurs indochinois vont vivre 10 années d'exil forcé en France. Internés tout d'abord à l'intérieur de la PNEB, puis dans un camp à Creys, Creys étant à 2 kilomètres de Bergerac, ils sont ensuite affectés à divers travaux dans la région, à l'issue, effectivement, de la débâcle en 1940. Quel que soit leur emploi, leur salaire est confisqué par les services de l'État. Entre 1940 et 1948, ils sont 4000 au total à être passés par la Dordogne parmi les 20 000 travailleurs indochinois envoyés en métropole pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce livre révèle leur histoire, page sombre du passé colonial de la France. Alors, ce que l'on voit dans les différents chantiers donc, qui vont avoir lieu, c'est qu'à partir de la débâcle de 1940, et il faut occuper ces travailleurs indochinois parce qu'il est impossible de les renvoyer en Indochine pour une raison très simple, c'est que les bateaux qui partent, comme la France est du côté des Allemands, ils sont torpillés par la marine anglaise. Donc on est obligé de les garder. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on va leur faire faire ? Et le maréchal Pétain donc déclare la fameuse révolution nationale. Le tout, donc, on va le voir dans des conditions pour le moins contestables. Hein, je vais lire un extrait, vous allez voir en page 89, où on va employer effectivement ces personnes, on va leur confisquer leur salaire, et leurs salaires vont être en fait récupérés par leur hiérarchie. Voilà, c'est une page totalement méconnue, et quand je disais que ça, on ne nous l'a jamais raconté quand j'étais jeune, mais voilà, ça fait partie des pages effectivement peu glorieuses qu'on n'a pas voulu raconter. Alors, je vais vous lire en page 88 et 89, comment les travailleurs indochinois étaient-ils payés ? Combien gagnaient les requis vietnamiens comme fruit de leur travail ? Entre les salaires perçus par la MOI, la main-d'œuvre indigène, et les jeux d'argent, cela fait de nombreuses pages que je parle d'argent sans jamais approfondir le sujet de la rémunération réelle de cette main-d'œuvre vietnamienne. La question revêt une certaine complexité pour plusieurs raisons. D'abord, les salaires en France ont subi de très forts bouleversements au cours de la guerre, puis la libération. Ensuite, une rémunération toute seule ne veut pas dire grand-chose si on ne la compare pas à d'autres rémunérations et au coût de la vie. On retrouve un peu ce qu'on vit actuellement.
Tout à fait.
D'autant que les prix en France n'ont cessé de croître pendant la guerre pour exploser à la libération. De plus, dans les archives que j'ai retrouvées, elles sont nombreuses, il y a une confusion permanente sur le sens de l'expression « le salaire des Indochinois ». S'agit-il d'une rémunération que les ouvriers vietnamiens perçoivent réellement, ou ces salaires sont-ils en réalité versés dans les caisses de la MOI, qui, elle, ne cesse d'affirmer dans ces mêmes archives que les Indochinois sont rémunérés? Donc il faut savoir que l'auteur a fait... Tout est conservé dans des archives, donc à Marseille, et donc il a passé des années à éplucher l'ensemble de ces archives pour écrire ce livre. Et il écrit cela. Et comme si tout cela ne suffisait pas, les règles de rémunération de ces ouvriers vietnamiens déjà compliquées au départ n'ont cessé d'évoluer. Partons d'une constatation. Ces hommes se sont retrouvés en arrivant en France dans une situation tout à fait étrange, peut-être même unique. Dépendant totalement du service de la main-d'œuvre indigène, ils ont été privés de toute liberté dans leur rapport avec leurs employeurs. Pendant toutes ces années, en gros de 1940 à 1948, les ouvriers vietnamiens n'ont jamais été libres de choisir leur emploi, jamais libres de négocier leur salaire, ni leurs conditions de travail, jamais libres non plus de rechercher un autre employeur s'ils se considéraient mal payés ou maltraités. Et surtout, et c'est cela le plus spécifique, ils n'ont jamais touché leur salaire. C'est la main-d'œuvre indigène qui les plaçait chez les employeurs, la main-d'œuvre indigène qui négociait les contrats et la main-d'œuvre indigène qui percevait leur argent. Dans les archives, le ministère du Travail utilise pour cela l'expression euphémisée de main-d'œuvre encadrée, qu'elle oppose explicitement, je cite, aux travailleurs libres. Dans une lettre adressée en juin 1943 au directeur du service industriel des poudreries nationales à Paris, l'organe de direction de toutes les poudreries de France, le directeur de la main-d'œuvre indigène Aimé-Louis Crimald, admet que la dénomination salaire, je cite, ne saurait être appliquée à la rémunération demandée aux employeurs pour la mise à disposition de travailleurs indigènes coloniaux. Il explique ensuite le raisonnement sur lequel se base son service pour justifier que c'est à lui que ces salaires doivent être versés et non aux indigènes. Le raisonnement est le suivant, dit Guarabal, tenez-vous bien. Nous avons engagé des frais pour les faire venir et nous devons prévoir un budget pour les renvoyer chez eux. Nous devons payer les salaires du personnel européen chargé de les encadrer. Et nous assurons leur logement et leur nourriture. Sachant, je le précise, qu'ils étaient logés dans des endroits qui n'étaient ni chauffés, où il n'y avait pas d'eau courante, et donc dans des conditions l'hiver qui étaient assez extraordinaires. Et nous assurons leur logement et leur nourriture. Tout cela coûte très cher, dit en substance Aimé-Louis Crimald. Et en plus, depuis le premier jour de leur départ d'Indochine, leurs femmes, s'ils en ont une, perçoivent une allocation familiale qui augmente selon le nombre d'enfants, s'il y en a. Enfin, pour être complet, la main-d'œuvre indigène verse à chaque ouvrier, tous les jours de l'année qu'il travaille ou non, une allocation journalière destinée à couvrir ses petites dépenses lorsqu'il sort en ville le dimanche. Une sorte d'argent de poche, explique Grimald. Son montant, 1 franc par jour. En février 1940, lorsque les travailleurs indochinois commencent à travailler à la PNEB, la MOI encaisse, en échange de cette mise à disposition de main-d'œuvre ainsi que Grimald s'exprime, 50 francs par jour ouvrés pour 8 heures de travail par jour, soit 1250 francs par mois. Le 1 franc d'allocation journalière, 31 francs par mois, représente donc 2,5% du salaire mensuel qu'ils touchent. Donc ils touchent 2,5% de leur salaire, contrairement aux autres travailleurs qui, eux, touchent 100% effectivement de leur salaire. Ceci dit, en 1943, au moment où Grimald écrit sa lettre, les salaires perçus par la MOI sont passés à 72 francs par jour ouvré, tandis que l'allocation journalière n'a pas bougé. Elle représente alors 1,6% des revenus générés par les ouvriers vietnamiens. En 1945, lorsque les salaires augmentent brusquement face à son inflation, à une inflation dramatique, la MOI perçoit au minimum 120 francs par travailleur, mais l'allocation journalière reste toujours inchangée. Elle ne représente plus que 1% du salaire. C'est-à-dire, on est passé de 2,5% du salaire à 1% du salaire. On comprend pourquoi cette page est effectivement sombre.
Il vaut mieux la terre.
Il vaut mieux la terre. Ouais. Vous voyez, on en a parlé que 80 ans après Diego Arrabal. Regardons maintenant l'allocation familiale. J'ai mentionné dans le premier chapitre que 57% des 19 750 requis étaient mariés, soit 11 260 hommes. En 1939, le gouvernement général promet à ces 11 260 épouses qu'elles percevront pendant toute l'absence de leur mari 3 piastres par mois. Alors aujourd'hui, c'est le dong, au Vietnam, c'est plus le piastre. 3 piastres par mois, soit 30 francs selon le taux de change de l'époque. Les mères percevront 0,3 piastres, 3 francs supplémentaires par enfant. On a vu aussi que 5 200 enfants environ avaient été laissés au pays. la charge mensuelle que ces femmes et ces enfants représentent sur le budget de l'État, et donc finalement sur celui de la MOI, s'élève ainsi à 350 600 francs par mois. Répartis sur les 19 750 requis, cela revient à 17 francs par mois, soit un peu moins de 60 centimes par jour. Comparé aux 50 francs, puis 72 francs, puis 120 francs que chaque travailleur indochinois rapporte à la MOI, il pourrait sembler presque indécent de la part de Grimald, dont on parlait avant, le directeur des poudreries, de mentionner une telle charge dans une correspondance destinée à justifier, aux yeux de son correspondant, le montant du salaire qu'il lui réclame. Il n'ose même pas d'ailleurs parler d'une ultime charge assumée par la MOI, la constitution pour chaque ouvrier d'une épargne destinée à lui permettre de redémarrer sa vie lorsqu'il sera de retour chez lui. 50 centimes, montant 50 centimes par jour payés en piastres au moment du retour en Indochine. 8 ans plus tard, lorsque ces hommes rentreront chez eux, les sommes accumulées ne représenteront que des poussières balayées par la vague de l'inflation. Voilà, ça c'était pour présenter ce premier extrait. Et je le disais au départ, donc on voit effectivement qu'on les appelait la MOI, la main-d'œuvre indigène. Mmh. Vous savez, Diego Arabal, qu'en 1937, on a eu une exposition coloniale en France. Et lors de cette exposition coloniale, on a exposé des indigènes.
Mmh. Oui, je sais.
Voilà.
Hélas.
Voilà. Et il faut savoir que pour préparer cette émission, j'ai regardé les chiffres, le nombre de visiteurs. Il y a eu 30 millions de visiteurs. Mmh. 30 millions de visiteurs qui sont venus du monde entier pour voir, entre autres, des indigènes, les indigènes que la France représentait. Donc on avait monté un village et les gens venaient un peu comme s'ils étaient aux zoos.
C'est comme aux zoos, exactement.
Voilà.
Oui.
Voilà. Mmh. Et c'est pour ça, je fais le lien maintenant avec ces relents de supériorité que pouvait avoir effectivement donc, la race blanche dans les déclarations de certains militaires qui encadrent ces jeunes Indochinois. Et l'un d'entre eux fourmille d'idées et le fait savoir par écrit à la hiérarchie du régime de Vichy. C'est en page 107 du livre de Pierre Dom, « Colonisés, déplacés, exploités, travailleurs indochinois en Dordogne, 1940-1948 ». Je vais lire cet extrait, vous allez voir, c'est vraiment un livre passionnant. Moi, je me suis régalé à le lire, j'ai découvert effectivement plein de choses. Comme je l'ai expliqué, tous ces Vietnamiens ont été envoyés en France pour travailler dans les usines d'armement. En juin 1940, l'armée française est défaite et les usines s'arrêtent. Que faire de ces hommes en attendant de les rapatrier? C'est l'été, il fait chaud. Et l'idée de les utiliser à curer des rivières germe très rapidement dans l'esprit de certains encadrants français. En juillet 1940, le lieutenant de Moreira, commandant de la 34e compagnie stationnée à Angoulême, je rappelle qu'il y avait une poudrerie également, donc à Angoulême, qui aujourd'hui a été dépolluée, qui n'existe plus, prend contact avec le sous-préfet de Cognac, ainsi qu'avec plusieurs maires des localités du département. Rapidement, plusieurs dizaines de travailleurs indochinois se retrouvent les pieds dans l'eau à nettoyer deux affluents de la Charente, l'Antenne et le Charentonneau. Dans un rapport destiné à ses supérieurs, Moreira vante ce type, je cite, de travaux d'utilité publique où aucune concurrence de main-d'œuvre avec les ouvriers français n'est à envisager. Deuxième argument qui reviendra très souvent dans les archives, nos anamites sont particulièrement habitués à travailler dans les rizières, donc dans l'eau.
C'est QFD.
Voilà, et que, franchement, quand on lit ce livre,
on constate, en fait, c'est ce que vous dans les choix que vous faites de texte, on voit bien le fonctionnement du racisme, quoi, où, je veux dire, il y a une supériorité des Blancs par rapport aux autres. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on occulte complètement dans le discours sur les colonies françaises, on occulte totalement le fait que on n'est pas avec des citoyens partout. C'est-à-dire que l'Empire français à l'époque, au sens de colonie, on a les Français et puis on a les indigènes.
Les indigènes.
Qui ont les mêmes devoirs que les citoyens français, mais pas du tout les mêmes droits.
Ah, pas du tout les mêmes droits, non.
Et je pense que là...
Et notamment le droit de grève, hein, ils avaient interdiction de faire...
Oui, bien sûr, droit de grève, mais même dans la façon d'être traité ou autre. C'est-à-dire que politiquement, effectivement, ils étaient pas du tout citoyens. Ils étaient des citoyens de seconde zone.
Et c'est vrai que tout cet aspect-là va changer, puisque le 2 septembre 1945, c'est la reddition du Japon. Le même jour, Ho Chi Minh déclare l'indépendance du Vietnam. Mm. Et le même jour, donc en France, ben ça va très rapidement, car les travailleurs donc vietnamiens apprennent que Ho Chi Minh a déclaré l'indépendance du Vietnam, ils se mettent en grève, sauf qu'ils n'ont pas le droit.
Mmh.
Et on va le voir après, vous allez voir que il y a une véritable répression qui va se mettre en place. Je vais en parler un peu plus loin. Et vous allez voir, notamment sur la façon dont on va utiliser ces personnes, notamment un point sur l'emploi des travailleurs coloniaux dans le cadre de la révolution nationale, voulue par le maréchal Pétain. Donc il y a des chantiers, qui présentaient un intérêt d'un point de vue agricole qui doivent être mis en œuvre. C'est ce qui est prévu dans le cadre de cette loi. Et en voici un exemple sur la façon dont les travailleurs indochinois ont été taillables et corvéables à souhait. Je vais le lire, c'est en page 108. C'est en fait un chantier qui s'est fait, qui s'appelle le chantier des bonnes. Et je le dis, ça se déroule dans le Périgord. Donc si on a des auditeurs et des auditrices qui vont dans le Périgord en vacances cet été, ben, ça serait intéressant qu'ils aillent entre Bergerac et Sarlat, parce que les bonnes, c'est une rivière qu'à un moment donné, il a fallu curer. Parce qu'ils avaient l'intention, vous allez voir, de planter du chanvre. Et en fait, vous allez voir à travers ce que je veux dire, que les propriétaires, en fait, ce qui les intéressait, c'était pas tellement de curer les champs pour faire du chanvre, c'est que si on curait les rivières, les champs prenaient de la valeur, mais ils avaient absolument pas l'intention, effectivement, forcément, d'y planter du chanvre. Donc il y avait des intérêts très divergents. Donc, la révolution nationale voulue par Pétain, c'est en page 108. Le premier élément déclencheur intervient le 16 février 1941 par le vote d'une loi qui donne au préfet le pouvoir de décider l'exécution de travaux avec une participation financière de l'État lorsque ceci, je cite, présente au point de vue agricole un caractère d'urgence ou d'intérêt général. Curage de rivières et assainissement de marécages font partie de la liste des travaux éligibles à une prise en charge par l'État. Cette loi s'inscrit dans la politique de la révolution nationale prônée par le régime de Vichy, dont un des piliers, le retour à la terre, consiste à réhabiliter des terres abandonnées afin d'y faire renaître d'anciennes cultures oubliées. Je cite le maréchal Pétain, « La France redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une nation essentiellement agricole. Elle restaurera les antiques traditions artisanales », clame le maréchal Pétain dans un discours prononcé à Tulle le 20 avril 1941. Le projet des bonnes coche toutes les cases, remettre en usage des sols abandonnés et faire renaître un artisanat disparu, celui du chanvre. Alors l'objectif c'est quoi? C'est que l'Allemagne occupe le nord de la France, les manufactures sont touchées, on se dit dans la partie Bergerac était en zone libre, et on se dit on va remettre des usines de chanvre et on va monter un artisanat donc pour pouvoir effectivement développer cela, voilà.
Mais c'est du chanvre local, c'est pas du chanvre indien.
Non, c'est du chanvre local, voilà, je te précise. Fais bien de faire la remarque, Dubois Raval. S'il y en a qui veulent passer des vacances cet été en se disant qu'ils pourront trouver des pieds de chanvre, non, pas du tout. C'est pas doudou, ça. Voilà un livre, en tous les cas, donc à lire, qui évoque aussi l'indépendance du Vietnam, je vous le disais à l'instant, donc décrété par Ho Chi Minh le 2 septembre 1945, mais aussi, je vous le disais tout à l'heure, Dubois Raval, le mariage de Vietnamiens avec des Françaises, celles-ci découvrant la mort de leur mari, que certains donc avaient été arrachés à leur village, elles le savaient un peu, mais surtout qu'ils avaient déjà des enfants et une femme. Et donc je vous laisse imaginer la rencontre des demi-frères et des demi-sœurs. C'est vraiment un livre à découvrir parce que l'auteur est parti au Vietnam pour rencontrer donc
des descendants,
ouais. Certains qui sont revenus donc là-bas et puis qui leur explique. Alors notamment, il y a une anecdote qui est très savoureuse. Il y a un des Indochinois qui se marie à une Française et il explique qu'un jour, donc comme il est traducteur, il arrive à la poudrerie nationale de Bergerac. Il y a des femmes qui ont été réquisitionnées, comme c'était lors de la première guerre mondiale, pour fabriquer de la poudre. Et d'un seul coup, ces femmes l'attrapent. Et il raconte cette anecdote savoureuse. Elles le déshabillent parce que elle voit qu'il est différent des autres pour voir s'il est fait comme les autres. Et il explique, donc il le raconte en rigolant, il dit que Pierre Dom le raconte, que quand il lui dit ça, il lui raconte cette anecdote savoureuse en rigolant, il dit, vous voulez juste voir si j'étais fait comme les autres, elles se sont sauvées en courant et en riant. Voilà, c'est vous dire à un moment donné toute l'image qu'il peut y avoir.
Ouais.
Et il a retrouvé donc en Dordogne aussi des anciens hein, qui leur ont parlé. Hein. On le voit à travers, vous voyez, alors on est à la radio, hein, il y a pas de photos, mais il y a tout un tas de photos dans ce livre qui sont passionnantes sur en fait eh ben, des photos qui ont été prises. Et puis on voit qu'il y a eu des mariages, et par moments c'était pas le cas. Et donc, la MOI s'en inquiète. Tant qu'il y a des rencontres, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand une femme tombe enceinte et puis qu'elle n'est pas mariée. Ce qui plus est avec un indigène. Donc là, il faut faire en sorte, effectivement, de prévoir que le scandale n'existe pas. Voilà. C'est un livre vraiment magnifique, qui interroge beaucoup, qui parle après, effectivement, notamment aussi de l'entrée dans la résistance des Vietnamiens. Ça, on le connaît peu. On a parlé la semaine dernière, vous vous souvenez, des Espagnols qui sont rentrés dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu aussi des Indochinois. Il y a une photo, notamment à Bergerac, où on voit lors de la libération de Bergerac en août 1944, on voit qu'il y a un soldat vietnamien qui défile également avec ses hommes, donc qui était rentré dans la résistance. Et c'est une page totalement méconnue. Donc, j'invite les gens à le lire comme ça. Comme je sais que la Dordogne est un département, le Périgord est un lieu de villégiature très apprécié. C'est aussi, dans cette émission, de dire aux gens, mais écoutez, si vous allez en vacances là-bas, lisez ce livre pour porter un autre regard.
Et découvrir des choses que... Ouais. Qu'on cache dans le sens propre du terme. C'est-à-dire que c'est pas qu'on les cache, mais c'est qu'on est aveugle à l'existence de ces moments-là. On préfère une histoire fédératrice et lisse,
voilà.
Sans tenir compte de la réalité de et la violence nuances. Qu'il y a pu avoir à certains moments.
Voilà. Ouais, et des nuances, effectivement, qu'il peut y avoir. Et je me souviens, moi, quand j'étais gamin, à l'école à Bergerac, on va terminer là-dessus, j'avais une copine en classe, en CE2, que j'ai retrouvée en CM2 et en 4e, qui était donc asiatique. Et je ne me suis jamais posé la question de savoir d'où elle venait. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, je savais où elle était, je l'ai contactée. Et elle m'a dit qu'effectivement, elle était la descendante donc, d'un travailleur indochinois, son grand-père, qui est resté. Et je ne lui ai jamais posé la question quand j'étais jeune. J'aurais attendu 50 ans pour le faire.
Ben vous n'étiez peut-être pas conscient de ça.
Non, puis je pense
que... Ça me fait penser à cette question qu'on pose souvent à des enfants. Est-ce qu'il y a des étrangers dans ta classe? Et les enfants qui répondent, non, il y a d'autres enfants.
Voilà, ben c'est exactement ça. Et je me suis dit que c'était la meilleure des choses. C'est pour ça un très bon livre par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe Subercase, sur le devoir des mémoires, colonisés, déplacés, exploités, travailleurs indochinois en Dordogne, de Pierre Dom. Je rappelle que c'est un journaliste donc qui collabore au Monde diplomatique, hein, qui est quand même un journal de référence, un mensuel de référence, donc publié aux éditions Elitis. On vous le recommande si vous allez passer des vacances en Dordogne, très 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 beau département, notamment entre Bergerac et Sarlat, hein, en allant vers le Périgord noir. Lisez ce livre et vous aurez une partie de cette histoire méconnue de la Dordogne, dont on commence à parler aujourd'hui, puisque ce livre est sorti en 2025. 80 ans après, et que l'exposition donc sur les travailleurs indochinois a été présentée à Bergerac en décembre 2025. Elle devait durer qu'un mois, elle a eu tellement du succès
qu'elle a été prolongée.
Ouais.
Ah, c'est bien ça.
C'est bien ça, ça prouve que...
Ça prouve que ça intéresse.
Voilà, que la mémoire a de l'avenir. C'est joli ça comme phrase pour terminer.
C'est très beau. Hein,
c'était la mémoire de l'avenir.
Non mais je l'avais pas prévu en plus. Vous voyez, c'est spontané quoi. C'est une fulgurance quoi. C'est la mémoire de l'avenir.
C'est beau.
Je vous autorise à la réemployer, Philippe Subercase.
ne vous inquiétez pas. Je ne me l'approprierai pas. Je dirais bien qu'elle vient de vous.
Voilà, j'ai déposé un brevet. Voilà ce qu'on pouvait dire. Très très beau livre. Colonisé, déplacé, exploité. Travailleur indochinois en Dordogne, 1940-1948 de Pierre Dom aux éditions Elitis.
Un grand merci à tous les
avec
deux.
Avec plaisir, à la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercase. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet, radioprésence.com et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
L'Église vit dans l'histoire au service de l'avènement du royaume de Dieu dans le monde. Les mots du